Dieu soit béni. Comme je l'avais annoncé, donc nous allons faire un suivi sur plusieurs dimanches, sur l'épître de Paul aux Colossiens. Alors je ne dis pas que ça sera tous les dimanches, mais on va voir un peu plus près cette épître aux Colossiens. Nous ne verrons pas verset par verset, ça serait peut-être un peu trop long, mais nous prendrons quelques tronçons et donc nous suivrons ces quatre chapitres de cette épître aux Colossiens. Juste avant de faire une première lecture, quelques généralités au sujet de cette épître et au sujet de cette ville qui se situait donc dans la Phrygie, c'est-à-dire dans l'actuelle Turquie, non loin de Laodicée. Elle était proche de Laodicée et d'Hierapolis. Et l'apôtre Paul n'est pas le fondateur de cette église. Il semble que ce soit Épaphras, puisque l'apôtre Paul en parle. Lorsque l'apôtre Paul écrit à cette église, il est en prison. Il est en prison, il a écrit plusieurs épîtres alors qu'il était en prison, et là il est en prison, et il apprend, dans sa prison, il apprend des nouvelles de cette église de Colosse. Alors, c'est pas lui le fondateur, mais il connaît des membres, il connaît un petit peu cette église, et il apprend les nouvelles par Épaphras, justement, qui vient lui rendre visite. Et il va rendre grâce à Dieu pour ce qu'il va entendre de ces nouvelles, mais aussi il va faire un sujet de prière par rapport à certaines choses, et il va écrire cette épître parce qu'il y a un danger que court cette épître, que nous verrons un peu plus en détail, mais il y a un danger par rapport à certaines pratiques, certaines doctrines qui avaient cours et qui influencé cette église, influencé par certaines philosophies grecques et aussi certaines pratiques du judaïsme. En fin de compte, pour faire court, il cherchait la sagesse sans Christ et la sainteté sans Christ. Cet enseignement diminuait, amoindrissait la personne de Jésus et son œuvre. Aussi, l'apôtre Paul va rappeler que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, comme cela nous a été lu tout à l'heure dans l'introduction à la Sainte-Cène. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va rappeler la prééminence de Christ, sa grandeur, et que c'est lui le chef de l'Église. Que Dieu soit béni. Amen. J'aimerais avec vous lire les 11 premiers versets. Les 11 premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes choses, en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Gloire à Dieu. Il y a déjà beaucoup de choses dans ces 11 premiers versets, et c'est vrai que si nous voulions voir verset par verset, il nous faudrait, peut-être pas toute l'année, mais en tout cas, il nous faudrait plusieurs semaines pour voir toute cette épître de Paul aux Colossiens. L'apôtre Paul va se présenter comme étant apôtre, c'est-à-dire envoyé de Jésus-Christ. Il a été envoyé par Jésus-Christ pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile, pour fonder les églises, pour les structurer, pour les établir, pour les affermir. Et il écrit, conjointement avec le frère Timothée, qu'il cite ailleurs dans d'autres épîtres, c'est vrai que Paul n'était pas seul dans ce service, dans ce combat. Il y avait une équipe avec lui et ils se réunissaient, ils se voyaient, ils étaient ensemble dans ce même combat. Il s'adresse ici aux saints et aux fidèles frères qui sont en Christ dans cette ville de Colosse, et il leur souhaite que la paix et la grâce leur soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aborder les problèmes qui touchent à cette épître, c'est remarquable, et souvent l'apôtre Paul y fait cela, il souligne les qualités de cette Église. Il souligne les qualités de cette Église. Au verset 3, il va même rendre grâce à Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi. Il parle de leur foi en Jésus-Christ. Il parle de leur amour pour tous les saints, à cause de l'espérance que le Seigneur leur a réservée dans les cieux. Foi, amour et espérance. Voilà donc certaines qualités qui étaient bien là dans cette église de Colosse. Et c'est vrai que parfois, on pourrait voir tellement les problèmes, on ne pourrait voir que ça, mais il n'y avait pas que les problèmes dans cette église de Colosse. Il y avait aussi des bonnes choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne focalisons pas uniquement sur ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, bien sûr, il faut le régler. L'apôtre Paul va essayer de régler cela au travers de ses écrits. Mais bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour l'Église où nous sommes. Bénissons le Seigneur pour les autres églises. Et bénissons le Seigneur et rendons grâce à Dieu pour la foi, pour l'amour et pour l'espérance. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Il parle de cet évangile qui est au milieu d'eux, de cet évangile qui a pris de l'ampleur, de cet évangile qui leur a été annoncé tout d'abord par Épaphras, qui semble-t-il est le fondateur de cette église. Hein, il en parle au verset 7. Et c'est vrai que l'évangile porte du fruit. Il va grandissant. Et nous le voyons en France, parfois en disant « c'est dur en France ». Et c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a des difficultés, il y a des obstacles, ça ne avance pas toujours comme on souhaiterait que ça avance. Mais néanmoins, les plus anciens parmi nous pourraient dire qu'il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, peut-être plus si vous êtes centenaire, je ne sais pas. En tout cas, depuis le début, nous remarquons quand même que l'Évangile a pris de l'ampleur. Alléluia. L'Évangile a pris de l'ampleur. Lorsque l'Évangile arrive quelque part, il prend de l'ampleur. Nous ne voulons pas sous-estimer l'efficacité et la puissance de l'Évangile. C'est la parole du Seigneur et le Seigneur veille sur sa parole. Alléluia. Il veille sur sa parole pour la faire grandir, pour développer cette parole. Et merci Seigneur pour ce temps où nous sommes aujourd'hui, où le Seigneur encore aujourd'hui répand parmi nous sa parole, mais lui donne de l'ampleur. Il va grandissant, il porte des fruits, que Dieu soit béni. Pensons bien qu'il n'y avait rien dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. À ce moment-là, il n'y avait rien avant. Avant les missions de Paul, rien. À part peut-être quelques personnes individuellement qui étaient venues le jour de la Pentecôte, dans Actes 2, puisqu'ils arrivaient de partout et qu'ils avaient été touchés par le Seigneur, à ce moment-là, et repartis chez eux après. Mais sinon, il n'y avait rien, il n'y avait pas encore d'église établie. Et en quelques années, toute cette région a été touchée par le Seigneur. Alléluia. Aussi, il nous faut encore prier aujourd'hui pour cette région qui a besoin tout à nouveau de connaître la grâce du Seigneur. Béni soit le Seigneur. Mais nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Oh, c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter sur cette foi, cet amour et cette espérance dont parle Paul. Amour, dont nous voyons que c'est l'Esprit de Dieu qui les animait en verset 8 et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Mais on va relire les versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Avant d'évoquer les problèmes qui touchent l'Église de Colosse, l'apôtre Paul, ayant été informé par Épaphras de ce qui s'y passe, va leur donner l'assurance qu'il ne cesse de prier pour eux. Je crois que c'est la première des démarches à faire lorsque nous voyons quelque chose qui ne va pas, c'est de prier le Seigneur. C'est de prier le Seigneur. Et il va se tenir dans la prière, et c'est un vrai combat pour Paul et pour et pas seulement pour lui, hein, puisqu'il dit « nous ». C'est un vrai combat pour Paul et son équipe, là, et puis pour Épaphras. Il ne cesse de prier. Et s'il ne cesse de prier, c'est que le sujet est important. Le sujet est important. Non seulement Paul et Timothée prient pour eux, mais on voit que Épaphras aussi, au chapitre 4, verset 12, on peut le lire. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Épaphras priait, et il avait un sujet particulier bien précis, on va y revenir, qui rejoint aussi ce sujet qu'évoque l'apôtre Paul, puisqu'il prie le Seigneur, il demande que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté. Alors, c'est vrai que les Colossiens cherchaient beaucoup la connaissance, c'était un peu le salut par la connaissance, c'était, faisait partie de leurs problèmes, et l'apôtre Paul va rappeler certaines choses, et pour lui c'est un véritable combat, même s'il ne connaît pas, j'allais dire, personnellement, même si ce n'est pas lui qui a fondé cette église, c'est un combat dans la prière qu'il mène. Au verset 28 du premier chapitre, il dit « C'est lui, c'est Jésus, hein, que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Lisons bien le verset 29. « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. » Donc on voit là la nature du combat, l'ampleur, j'allais dire, du combat. Et Paul faisait de ce problème son problème. Il ne se désintéressait pas de cette église, même si ce n'était pas lui qui l'avait fondée. Et non seulement pour cette église, mais pour ceux de Laodicée et pour les autres aussi qu'il ne l'avait pas vu, hein, physiquement, qui n'ont pas vu mon visage en la chair. C'est important de ne pas cesser de prier le Seigneur. Il y a un combat qui est incessant. On ne peut pas dire « Ah, maintenant on est tranquille dans l'Église, maintenant les problèmes sont réglés ». Non, le combat, il est incessant, et ce, jusqu'au retour du Seigneur. Il ne faut pas nous relâcher dans la prière, parce que le combat, il est réel. Il est vrai qu'on... Bien sûr, nous l'avons vu lorsque nous avons fait la série sur l'Église. C'est vrai que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se tenir dans la prière. Comprenez bien que le combat, il est là, il est bien réel. Et si Satan peut perturber une église, si Satan peut contaminer une église par toutes sortes de doctrines, par toutes sortes d'hérésies, il le fera. Nous ne cessons de combattre et nous ne voulons pas, nous aussi, cesser de combattre. Nous voulons toujours combattre dans la prière. Et ce combat, l'apôtre Paul dira, eh bien, nous ne cessons de prier, demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. La connaissance de sa volonté du point de vue général, mais aussi au point de vue particulier pour chacun d'entre nous. C'est important de chercher la connaissance, de chercher plutôt la volonté du Seigneur. Et cette volonté, nous l'avons tout simplement dans sa parole. Nous avons là, j'allais dire, comment il nous faut nous conduire dans l'Église qui est la maison du Dieu vivant et vrai, que son nom soit béni. Comment nous conduire aussi dans la famille. C'est pour cela qu'à la fin de son épître, l'apôtre Paul parle des relations dans la famille. Les relations hommes-femmes, les relations avec les enfants, entre les maîtres et les serviteurs. Il parle de toutes ces relations, relations aussi dans l'Église. La volonté de Dieu passe par tout cela. Elle passe par tout cela. Et nous voulons chercher à connaître la volonté du Seigneur. Mais la connaître ne suffit pas, encore faut-il s'y soumettre. Et c'est pour ça que Épaphras, nous l'avons lu tout à l'heure, à la fin de cet épître, l'apôtre Paul évoque le sujet de prière d'Épaphras afin que, pleinement persuadiez, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. On ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu si on n'est pas persuadé. Sinon, on va obéir à quelque chose dont on n'est pas sûr, comprenez. Mais quand on est persuadé par quelque chose, on obéit tout simplement. On est soumis tout simplement. Et nous voulons vraiment prier pour cela et nous voulons être soumis nous aussi, pas à la volonté de notre Seigneur Jésus. Amen. Et cette soumission est due à une certaine maturité en Christ. Et il y a quelque chose sur lequel je voudrais m'arrêter ce matin. L'apôtre Paul va rajouter que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Il nous faut connaître la volonté du Seigneur, y obéir. On prend souvent l'exemple du jeune homme riche. Il avait eu sa réponse. Le Seigneur lui avait dit ce qu'il devait faire. Mais il est parti tout triste. Il avait connu la volonté du Seigneur. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Mais ce jeune homme n'a pas obéi à cette volonté du Seigneur parce que quelque chose avait pris la place dans son cœur. L'amour de l'argent prenait la première place dans son cœur. Et puis ici, l'apôtre Paul précise « en toute sagesse et intelligence spirituelle ». Ces Colossiens qui cherchaient la sagesse sans Christ avaient besoin de connaître cette sagesse qui vient de Christ. En toute sagesse et intelligence spirituelle, il est important que nous puissions non seulement connaître la volonté de Dieu, mais la connaître et la comprendre d'une manière spirituelle. Parce qu'on peut connaître la volonté de Dieu sans savoir réellement comment appliquer cette volonté du Seigneur. Jacques nous dira dans son épître au chapitre 4, verset 17, « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, qu'est-ce qu'il fait ?» Vous connaissez ce verset, il commet un péché. Je vais le reciter, vous pouvez prendre note, c'est Jacques 4, 17. Hein. « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Ici, Jacques ne dit pas « celui qui sait ce qui est bien ». La précision, elle est là. « Celui qui sait faire ce qui est bien ». Déjà, bien sûr, il faut connaître ce qui est bien, mais savoir le faire. Comprenez ? On peut savoir quelque chose, que cette chose-là est bonne, mais sans savoir comment le faire, sans savoir comment le mettre en pratique. celui qui sait faire ce qui est bien. Et c'est spirituellement qu'on juge de la parole de Dieu. L'homme charnel, l'homme animal, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul, n'y comprend rien. Mais le Seigneur nous a donné son esprit afin que nous puissions discerner quelle est sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite, que notre intelligence soit renouvelée afin que nous puissions comprendre cette volonté et la mettre en pratique. Jésus a donné une mission extraordinaire à l'Église. Il nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des gens qui suivent un enseignement, des disciples de Jésus-Christ, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il rajoute ? Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas simplement enseignez-leur à ce que je vous ai prescrit. Bien sûr qu'il faut connaître, mais enseignez-leur à observer. Apprendre à observer. Apprendre à observer ce que le Seigneur nous a prescrit. Et ça, c'est aussi le rôle de l'Église. Savoir comment mettre en pratique la parole de Dieu afin de ne pas tomber dans certains travers que les Colossiens commençaient à rentrer puisqu'ils observaient, certains les troublaient avec non seulement des philosophies, mais aussi avec des rites qui venaient du judaïsme. On peut lire par exemple au chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur l'érudiment du monde et non sur Christ. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impostons ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Vous voyez, on peut abuser de certaines choses. Et qui ne sont fondées que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ils ont une apparence de sagesse, peut-être même de piété, ils sont là, ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, du mépris du corps. On pourrait dire, mais ça c'est vraiment des gens qui sont pieux, qui sont consacrés. Mais en fin de compte, le problème, c'est qu'ils le faisaient sans la force que Dieu communique, sans Christ et pas dans l'Esprit de Dieu. Pas dans l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette sagesse et cette intelligence spirituelle afin de ne pas tomber dans le légalisme, afin de ne pas tomber dans l'observance traditionnelle de rites qui ne produisent pas la vie. N'oublions pas que c'est l'Esprit qui vivifie. Que c'est l'Esprit qui vivifie. La lettre, elle tue. On peut tuer. Non seulement avec la loi de Moïse, mais vous savez, vous pouvez tuer aussi avec des paroles de Jésus. Mal appliquées, mal interprétées, en imposant certaines choses. Il s'est fait des atrocités et bien des églises, malheureusement, ont fait naufrage parce qu'elles n'ont pas su, avec sagesse et intelligence spirituelle, comprendre et appliquer la volonté du Seigneur. Le Seigneur nous a donné son esprit, alléluia, et il nous renouvelle, il nous transforme de gloire en gloire, que son nom soit glorifié parce qu'il est celui qui nous, encore aujourd'hui, renouvelle notre intelligence. Et le résultat de cette prière, en tout cas c'est ce que vise l'apôtre Paul, et pour, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, alléluia. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et qu'est-ce qui nous rend agréable au Seigneur ? La foi. La foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et c'est par la foi que nous obéissons à cette volonté de Dieu. C'est par la foi que nous recevons la parole de Dieu. C'est la foi qui est la clé au départ de toute notre vie spirituelle. Nous recevons ses grâces. Et lui est entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la grâce, par la connaissance de Dieu. Eux, les Colossiens qui cherchaient les connaissances dans les philosophies grecques, dans le judaïsme, etc., qui a donné naissance à ce qu'on appelle, excusez le terme, la gnose, mais la connaissance, la vraie connaissance, c'est celle de Dieu. C'est celle de Dieu. Les Colossiens pensaient, enfin, l'enseignement qui commençait à les influencer, disait qu'il y a tout un tas d'êtres angéliques dans les cieux qui sont des intermédiaires pour aller jusqu'à Dieu. Ah, il fallait connaître ces êtres spirituels intermédiaires. Mais en fin de compte, ce qui est important pour nous, ce n'est pas ça. C'est la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est la connaissance de Dieu. Les anges, tout ça, bien sûr qu'ils existent, mais n'oublions pas qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Alléluia, c'est Jésus-Christ. Ces enseignements-là ont peut-être disparu, mais vous savez, si la forme a disparu, le fond reste le même. Et encore aujourd'hui, il y a des problèmes de la sorte qui peuvent influencer l'Église. Et il me semble quand même, en lisant cette épître, qu'elle est assez actuelle pour notre contexte français, où nous avons d'un côté un certain... peut-être libéralisme, mais d'un autre côté, un excès d'intégrisme ou de conservatisme qui est là. Ce qu'il nous faut, c'est la grâce et la vérité. Que Dieu soit béni. La grâce et la vérité. Merci au Seigneur. Croissant par la connaissance de Dieu. Et fortifié, verset 11, à tous égards. Nous avons besoin d'être fortifiés par le Saint-Esprit. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, alléluia. En sorte que quoi ? Vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Je ne sais pas si vous êtes toujours, en tout cas moi, patient avec joie. Waouh ! Nous avions un docteur dans le passé, je redoutais d'aller chez ce docteur. Parce que c'était minimum 2 heures d'attente dans la salle d'attente des patients. C'est pas grave. 2 heures. À chaque fois que je fallait que j'aille sur ce docteur, je dis, oh là là, c'était interminable. Être patient avec joie. Waouh. J'ai des progrès à faire. Hein. Et persévérant en plus. Persévérant. Ah, des fois, on lâche prise parce que voilà, on en a assez. Et on ne peut servir pas, mais toujours avec joie, persévérant et patient. Et c'est l'apôtre Paul qui dit ça, il est patient dans sa prison. Il est resté de longs mois dans sa prison, bien plus que de longs mois. Et on peut s'imaginer ce que c'est que de vivre dans une cellule, surtout les prisons de l'époque, ce n'étaient pas les prisons d'aujourd'hui. Lorsque nous étions en Tunisie, on a visité quelques sites archéologiques et on a visité un site où, à un moment donné, les chrétiens étaient emprisonnés là. On s'est dit, mais comment ils ont fait pour vivre des jours là-dedans ? Des jours là-dedans. Persévérant. Et l'apôtre Paul était persévérant et patient dans ces endroits-là avec joie. Ça ne veut pas dire que l'apôtre Paul n'avait pas ces moments où peut-être, oui bien sûr, puisqu'il parle de sa solitude à certaines reprises, il parle de cela, on sent que ça lui pèse, on sent que ça lui pèse. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que lui, comme bien d'autres, il était fortifié à tous égards par la puissance glorieuse du Seigneur Jésus. Alléluia. Humainement, on ne peut pas tenir. Mais là, nous sommes intérieurement fortifiés par la puissance du Seigneur. Alors lorsque nous sommes là avec nos problèmes, lorsque nous sommes là comme emprisonnés dans certaines choses, dans certaines situations, nous voulons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que le Saint-Esprit agit en nous et qu'il nous fortifie. Et nous voulons rechercher cela, Que le Seigneur nous fortifie à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que nous soyons, et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Que Dieu soit béni. Qu'il nous accorde sa grâce et qu'il, encore aujourd'hui, nous inonde de ses bontés. Merci Seigneur.